Éric Andrieux, pour ce 7e Radio Barque, nous allons, comme on le fait très très souvent, essayer de vous connaître un petit peu mieux. Alors, vous avez un parcours d'élu qui remonte assez loin. Essayez schématiquement de nous rappeler par quelle élection vous êtes passé. Pour toutes, j'ai l'impression.
Ben, j'ai été élu la première fois en 1988. Voilà, j'étais élu conseiller départemental du canton de Moutoumé.
À l'époque, on disait conseil général.
Exactement, conseil général du canton de Moutoumé en 88. Ensuite, voilà, j'étais adjoint à la commune de Villerouge-Termenès en 89. Après, j'ai été élu maire en 95. Entre-temps, j'avais été réélu conseil général en 94. En fait, j'ai été élu au département de l'Aude, conseil général, à les différentes responsabilités jusqu'en 2004-2005, puisqu'en 2004, j'ai été élu à la région, Languedoc-Roussillon.
C'est-à-dire que vous avez fait toutes les strates à peu près.
C'est ça, j'ai fait département, mairie, intercommunalité, puisque j'ai participé à la création du district de Moutoumé. C'était en 90, au mois de mai 90. Et après, j'étais à la région en 2004. Après, j'ai présidé les réseaux nationaux de développement local, un réseau qui s'appelait l'UNADEL, qui est l'Union nationale des acteurs et des structures de développement local. C'était pas un mandat, c'était un mandat associatif et militant. Et
Pour arriver à l'Europe, finalement.
Et finalement, oui. Donc, j'ai été élu j'ai accédé au Parlement européen en 2012. Et comme je suis contre le cumul des mandats, à chaque étape, j'ai lâché les mandats. C'est-à-dire que j'ai été élu à la région, j'ai lâché mon mandat départemental, le temps que les choses de la transition se fassent. Et quand j'ai été élu au Parlement européen, j'ai lâché mon mandat régional.
Voilà. Mais avec l'avantage d'avoir l'expérience de ce que c'est à la fois d'être élu européen,
bien sûr,
mais aussi d'avoir été élu à Moutoumé dans un canton très rural.
Exactement. Mais c'est-à-dire que quand aujourd'hui je fais la loi européenne, j'écris, parce que j'ai la responsabilité de certains textes, hein, ben j'ai la prétention de penser que je sais ce que je fais finalement.
Oui,
je connais l'impact des textes sur le quotidien des citoyens, sur les territoires. Et je dis ça, mais c'est un parcours très riche et très intéressant à l'évidence, puisqu'on part du très concret, du très rural, du très complexe, du très difficile. La situation dans les communes du canton de Moutoumé, elle n'est pas facile. Hein. Donc c'est un territoire qui est pauvre, avec une difficulté, je dirais, presque endémique, historique. Donc, hein. Voilà, et lorsque je travaille, par exemple, sur le développement rural, sur les textes de loi, sur la politique agricole commune.
Ça évoque
je sais l'impact, voilà. Je sais ce que vit un éleveur en zone de Piémont. Je sais ce que c'est qu'un hectare de garrigue. Je sais ce que c'est que la difficulté d'un territoire en transition. Et quand on légifère et qu'on fait des textes, effectivement, je peux pas m'empêcher de penser la réalité que vivent les agriculteurs.
Ce qui manque à beaucoup de technocrates dans dans les bureaux et dans les grandes villes. Bon. Et Éric Andrieux, à un moment, je crois que vous avez aussi plus ou moins anticipé sur l'intercommunalité avec le district de Moutoumé.
C'est une belle aventure. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours été très impliqué sur les logiques de développement des territoires. Hein, c'était mon engagement. Et j'étais élu en 88, je leur dis, conseiller général du canton. Et très vite, on a perçu la nécessité de mettre en place une intercommunalité. Mais à l'époque, il faut se rappeler que n'existait que les syndicats intercommunaux à vocation multiple ou vocation unique. Voilà. Et il existait des intercommunautés. Les communautés des communes ou les communautés d'agglomération que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas. Et j'ai fait un gros travail avec la direction générale des collectivités locales à l'échelle nationale et les ministères. J'étais dans ces réseaux-là. Bon, c'est comme ça. Et on a créé les districts qui existaient. La structure juridique des districts existait à ce moment-là en France, mais c'était que des districts urbains. Et nous avons créé le premier district rural de développement local à Moutoumé, de France d'ailleurs.
C'était une sorte d'ancêtre de la Comcom d'aujourd'hui.
Exactement. C'est à ce moment-là, j'étais dans ces réseaux nationaux et j'ai beaucoup écrit sur la loi Voynet, la loi sur les pays, et j'ai travaillé pas mal sur la loi Chevènement. Alors les plus anciens se souviendront, voilà, sur la création justement de la communauté de communes. C'était bien avant la loi NOTRe, hein, voilà, qui n'avait rien à voir dans l'état d'esprit d'ailleurs, et qui a participé de la création des pays en France et des communautés de communes. Et le district de Moutoumé projet était l'avant-garde, si j'ose dire, en beaucoup d'humilité, une fois de plus, des communautés de communes. Et on a été les premiers sur le département. C'était une belle histoire à l'époque, d'ailleurs, ce qui nous a permis d'enclencher un process de projet de développement sur le territoire de l'ancien canton de Montauban.
Vous avez essuyé des plâtres, même, enfin, vous avez servi de brouillon, en quelque sorte.
Tout à fait. Esquisse. Je préfère le mot esquisse que brouillon, mais effectivement, c'était ça.
Oui, c'est pas flatteur, brouillon, de par son double sens, effectivement. On va revenir un peu sur tout ça, mais une question qui me vient à l'idée aussi. On parle forcément beaucoup d'Ukraine aujourd'hui. Voilà un pays qui a été dans la mouvance russe, soviétique pendant très longtemps, dont on a l'impression qu'aujourd'hui il revient avec tous les déboires qu'on connaît vers l'Europe. Quel est votre sentiment? Est-ce que pour vous l'Ukraine c'est un pays qui vraiment fait partie de l'Europe ou est-ce qu'il est encore dans la sorte de satellite de, non pas de l'Union soviétique qui n'existe plus, mais de la Russie et de l'ex-empire russe? Quel est votre sentiment là-dessus?
Alors moi, c'est pas un sentiment. Il y a une réalité finalement qui fait que le monde dans son histoire contemporaine est passé d'un monde organisé autour d'une bipolarité entre les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Tout ça donc s'est transformé. Ça a échappé à personne, hein, et en particulier avec la chute du mur de Berlin en 89, et que du coup on a vu un monde évoluer. On est sur la géopolitique là, et on est passé d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, on va dire ça comme ça.
Éclaté même.
Et éclaté. C'est aujourd'hui il y a des pays émergents, voilà, qui ont émergé, la Chine, l'Inde, le Brésil, voilà. Et donc ça veut dire dans cet espace là, il y a un choix majeur qui nous est posé en tant qu'Européens, c'est de savoir est-ce que le continent européen, l'Union européenne, veut jouer un rôle d'équilibre à l'échelle intercontinentale ou pas. Si l'on doit jouer un rôle d'équilibre, je pense qu'il faut aller vers l'élargissement. Parce qu'en fait, vous savez, il y a un adage en politique qui dit souvent « dis-moi combien tu pèses, je te dirai qui tu es », voilà. Et là, aller discuter avec les Chinois, par exemple, si on y va en tant qu'État français,
oui, on pèse pas grand-chose.
Voilà.
Oui.
Si vous y allez à l'échelle d'un continent qui est le continent Europe, vous êtes encore le premier marché mondial. Donc là, vous pouvez commencer à discuter avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, etc. Et donc, si l'Europe s'élargit, mais bon, l'élargissement à l'Ukraine, moi, j'y suis favorable, je dois dire, parce qu'effectivement, je vois bien en matière de géopolitique ce que ça représente, à l'échelle intercontinentale, mais ça se fait pas un jour. Il faut vraiment qu'il y ait un travail préalable, il sera liminaire, il sera long, de conscience commune. Et là, on n'est pas prêt, à l'évidence. Donc l'Ukraine, et vous le savez, a émis l'intention d'adhérer à l'Union. L'Union a émis l'intention en disant, voilà, elle a acté le principe en disant, OK, on n'est pas défavorable à ce que l'Ukraine
adhère. Mais c'est une vision de l'avenir.
Mais c'est une vision d'avenir, mais qui sera de long terme. Ce sera de très long terme. On est à 20 ans, il faut être bien conscient de la chose. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'avec le conflit, là aujourd'hui en Ukraine, le monde est fragile. Et que la paix dans le monde est fragile. Et qu'effectivement, je crois qu'il faut savoir raison garder, ça c'est mon sentiment, parce que les tenants de la vérité en disant il faut pas aller vers l'OTAN, le poids des Américains, etc. Ok, moi je suis pas un homme de guerre, je suis un homme de paix, mais quelquefois pour maintenir la paix, c'est là qu'on a des divergences sur nos approches, il faut établir le rapport de force.
Oui.
Parce qu'effectivement, quelqu'un comme Poutine, on nous dit oui, il faut se mettre autour d'une table. Certains disent ça, je l'entends, je le lis, mais encore faut-il qu'il décide, il accepte de se mettre autour d'une table. Or, depuis le début, à l'évidence, il est plutôt dans le refus que dans l'acceptation. Donc, il y a des évidences qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Et moi, je pense que dans ces rapports de force-là, parce qu'on parle de ça, depuis que l'homme est l'homme, il a vécu sur des rapports de force, et malheureusement, j'ai envie de dire que depuis le Moyen-Âge, l'homme dans sa structure n'a pas changé, et on le voit aujourd'hui avec l'attitude d'un Poutine, mais ça doit nous interroger si on veut être les tenants d'une paix et d'un équilibre et d'une sécurité à l'échelle internationale.
Donc, et éviter de faire, alors comme on dit, dans l'angélisme,
bien sûr,
et voir des réalités. Ce que vous disiez à l'instant rappelle le fameux adage romain, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est
oui,
un peu ça.
C'est pas tout à fait faux. Il faut rester, je pense qu'il faut, il faut être vigilant à la fragilité du monde aujourd'hui. Et on le voit bien que tout est fragile et que même dans les échanges, on sort d'une guerre froide, donc on est prêt à rentrer dans une autre, et que tout ça participe de l'équilibre géopolitique dans lequel, je le crois, la question de la souveraineté nationale n'a plus de raison d'être et qu'on est bien à l'échelle d'une souveraineté européenne, parce qu'à l'échelle monde, c'est à ces échelles-là que notre avenir se dessine.
En conclusion, Éric Andrieux, on va terminer là-dessus. Avec votre grand parcours de militant et le recul, est-ce que vous vous dites, bon, tout ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose, ou est-ce que vous ressentez parfois des déceptions ?
Alors, des déceptions, certainement. Des regrets, non. Oui, j'ai l'impression d'avoir servi voilà, à faire progresser, mais le chantier est tellement immense, si vous voulez, que quelquefois, on est presque pas, je dirais pas en situation d'échec, mais au moins d'interrogation. Je pense avoir agi dans la transformation de la vie de certains, et j'en suis assez fier. Mais à la fois, il faut le dire avec beaucoup d'humilité, parce que la situation du monde est complexe et que chaque pierre portée à l'édifice est importante. Et j'ai peut-être été un de ceux qui a apporté quelques pierres à l'édifice de la construction du commun.
Merci voilà,
en
tout cas de vos échanges. Humilité, c'est probablement l'enseignement majeur de tout ça.
Oui, très certainement. Je pense qu'il faut se garder. Je pense qu'il faut garder des convictions, mais être garant de ses certitudes.
Merci Éric Andrieux, député européen. Le prochain invité de Radio Barque sera Jean-Marie Aversinck. Alors, c'est le directeur actuel du SMAR, le syndicat audois des milieux des milieux aquatiques et des rivières. Voilà. On va parler évidemment d'un problème qui touche l'Aude aussi, l'eau. Trop ou pas assez. Merci aux auditeurs. À la semaine prochaine. Merci Éric Andrieux.
Merci à vous.